Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Nous sommes dans la nuit du 23 octobre 1980. Il est 3h28 du matin. Nous sommes près du Vieux-Québec, dans la ville de Québec, exactement au 540 rue de la Tourelle. Un feu se déclare au rez-de-chaussée de l'appartement. La personne qui habite au deuxième étage se rend bien compte qu'une odeur de fumée, qu'il y a quelque chose qui se passe. Elle appelle sa voisine du dessous, sans arrêt, à plusieurs reprises, mais elle n'obtient pas de réponse. Dans ce quartier-là, toutes les maisons, les vieilles maisons, sont tous collées, ou presque. Bien vite, tous les voisins sont évacués. Les pompiers arrivent sur place. Tout le monde s'en sort sain et sauf. Tout le monde, sauf une personne, France Lachapelle. Allô Internet! Aujourd'hui, je vous arrive avec ma vidéo longue du mois et je pense que c'est la première fois que je fais une vidéo longue sur un cas québécois. Ben, j'avais la vidéo sur Aurore, l'enfant martyr, mais là, c'est la première fois que c'est basé sur un livre que j'ai lu. Je vais vous le montrer ici, mais je vais en parler à la fin plus précisément. Donc, c'est l'autopsie d'un crime imparfait. C'est un livre qui m'a vraiment passionnée, je l'ai lu en un vol. Un petit peu plus, mais je vais en parler à la fin. Mais ce qui est vraiment passionnant, c'est que moi, je viens de la ville de Québec et tout ça a lieu vraiment dans la ville de Québec. Les lieux sont décrits comme il faut, puis ben, je sais exactement. Tu sais, s'il me dit, bon, ben, telle personne a le marché de telle place à telle place, je sais que ça prend 5 minutes. Donc, pour les gens de la ville de Québec qui me suivent, je pense que vous allez bien aimer. Puis j'espère vraiment que vous allez aimer parce que c'est quand même une vidéo avec plusieurs rebondissements. Et moi, j'ignorais cette histoire. Moi, qui m'y connais quand même en crime, surtout dans la ville de Québec, je connaissais pas du tout cette histoire. Fait que j'ai hâte qu'on la découvre ensemble. Sans plus attendre, allez vous prendre un bon café et lançons-nous dans cette vidéo.
Vous écoutez le podcast Over and Out.
Donc, j'aimerais commencer par vous parler de France Lachapelle qui, vous l'avez compris, est la victime dans cette histoire. France Lachapelle, c'est une jeune femme de 22 ans, c'est une artiste. Elle vient d'une bonne famille, d'une famille assez aisée. Son père, c'est un homme important dans les musées, là. Et elle a toujours fait du théâtre. Au cégep, elle étudie au cégep François-Xavier Garneau en art dramatique. Ensuite, elle a fait partie d'une troupe de théâtre à l'université. Donc, c'est vraiment une comédienne de métier. Le théâtre, c'est sa passion. Dans ses temps libres, elle donne des cours de théâtre dans des HLM, donc des tours à appartements pour des enfants plus démunis. Fait qu'elle donne de son temps comme ça, là, du bénévolat, en fait. Et aussi, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va vendre des toiles, des peintures sur la rue du Trésor. Pour ceux qui connaissent pas la rue du Trésor, c'est une rue très, très touristique dans le Vieux-Québec. Puis toutes les jeunes peintres vont exposer leurs toiles, puis il y a des touristes qui achètent ça. Et elle allait vendre ses toiles. Et là, l'auteur, il explique qu'à cette époque, c'était assez courant. C'est un fun fact, là, ça n'a pas vraiment rapport avec l'histoire, mais c'était assez courant que des peintres engageaient d'autres personnes pour vendre leurs toiles. Parce que ben, France était super belle, une belle jeune femme de 20 ans, ça vend plus que d'autres peintres, Bon, fait que c'était elle qui vendait les toiles, mais c'était pas elle qui peignait. Mais bon, c'était un deal qu'elle avait avec le peintre. Donc, France tenait vraiment juste avec des comédiens. Dans son cercle d'amis, c'était juste des comédiens. Elle avait un petit ami du nom de Alain, un autre comédien. Et ça faisait 2 ans qu'ils se connaissaient. Dans sa troupe de théâtre, elle se tenait avec le très célèbre Robert Lepage. On va y revenir. Mais Robert Lepage était son meilleur ami, donc il a un rôle assez important tout au long de cette affaire, tout au long de l'enquête. Il a dû aller en cour, c'était un suspect important, mais ça, on va reparler de Robert Lepage et je vais vous expliquer, pour ceux qui le connaissent pas, c'est qui. Le 540 rue de la Tourelle, c'était son premier appartement, la première fois qu'elle vivait seule, loin de sa famille. Ça faisait même pas 6 mois qu'elle habitait là, donc c'est assez dramatique tout ce qui est arrivé par la suite. Donc on a fait un portrait de France. C'est au milieu de la nuit que son appartement pogne en feu et tout le monde s'en sort sauf elle. Quand les pompiers entrent chez elle, le lieu principal de l'incendie, c'est là qu'ils font une macabre découverte. Là, attention, les détails sont un petit peu choquants. On découvre le corps nu de France et les couchés sur le ventre avec les mains ligotées derrière le dos et les jambes recourbées par l'arrière. Il y a un chiffon qui est enroulé autour de son cou. Son corps est brûlé en très grande partie et on trouve une bouteille de térébenthine près d'elle. La térébenthine, c'est un diluant à peinture qui est hautement inflammable. Donc, on peut deviner que l'assassin ou la personne qui a déclenché l'incendie s'est servi de cette bouteille. Dès la première analyse de la scène de crime, les enquêteurs peuvent déjà émettre quelques hypothèses, comme par exemple le feu a commencé dans le matelas. Et c'est vraiment là que ça a commencé, l'incendie a pogné en feu. Mais aussi, ils remarquent que le meurtrier serait passé par la cour arrière en utilisant l'entrée du sous-sol et ensuite il aurait pénétré dans l'appartement grâce à une trappe, tu sais, c'est des vieilles maisons, une trappe qui menait à l'appartement du premier étage. Aussi, on croit que France était probablement déjà morte au moment de l'incendie, fait qu'elle n'a pas souffert de brûlures atroces. Elle a souffert d'une autre manière, là, ça c'est sûr, mais elle était déjà morte ou du moins inconsciente quand l'incendie s'est déclenché. On pense qu'elle avait été étranglée avec le chiffon autour de son cou. Par la suite, il est très probable que le meurtrier aurait mis le feu à la scène de crime pour effacer ses traces. Le pathologiste constate que France aurait été poignardée à plusieurs reprises, mais elle est définitivement morte par strangulation et aussi il n'y avait pas de suie dans ses poumons, donc elle n'a pas respiré la fumée, donc ça confirme qu'elle était bel et bien morte avant l'incendie. Par contre, ce qui est étonnant ici, c'est que l'incendie du 23 octobre était loin d'être le seul. En fait, les pompiers étaient pas mal occupés ces derniers temps parce que dans les 2 dernières semaines, il y avait eu 4 incendies criminels en Haute-Ville. Donc, il y avait un pyromane en liberté et toutes les victimes étaient des femmes. Son modus operandi était pas mal le même. Il entrait chez des femmes qui vivaient seules. Il s'emparait de des vêtements féminins qu'il étalait sur le lit de la victime. Puis ensuite, il mettait le feu au matelas. Fait que là, le meurtre de France entre un peu dans cette série d'incendies. Le modus operandi est un peu le même. Pas tout à fait, mais un petit peu. Mais là, c'est la première fois qu'il y a un meurtre. L'enquête est pas facile depuis le début parce que, bien sûr, l'appartement en entier a été brûlé. Donc, c'est très difficile de recueillir des indices. Pour commencer leur enquête, les détectives vont interroger tous les proches de France. Sa famille, ses amis, ses collègues là, de théâtre, son petit ami et les voisins. En interrogeant la voisine du haut, Françoise, elle dit aux inspecteurs qu'entre 1h45 et 1h du matin, elle a entendu un son assez horrible, comme un bébé qui s'étouffait, qu'elle a ignoré. Elle s'est dit « Bon, ben, il doit avoir un bébé qui s'est étouffé, mais ça va aller, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire, là, t'es chez toi toute seule, t'entends un son étrange, tu sais, qu'est-ce que tu peux faire de plus? » Elle se rappelle très bien de ce son, puis ça s'est passé la nuit du meurtre. Donc, on peut en déduire que France a probablement été tuée à cette heure-là. Françoise confie également au détective que quelques jours avant le meurtre, il y a un homme qui est venu cogner chez elle pour demander si France habitait là. Elle a dit ben non, elle habite pas ici, elle habite en dessous, et elle a trouvé ça super étrange. Ce qui en soi, bon, quelqu'un peut se tromper d'adresse, oui, mais là, que ça arrive quelques jours avant un meurtre, puis qui demande à parler à la victime, là, ça devient étrange, et je pense que c'est plus qu'une coïncidence. On interroge surtout Robert Lepage, parce qu'en fait, c'est le dernier à avoir vu France vivante, et ben c'est son meilleur ami. Mais à part ça, il y a pas vraiment y a rien contre lui, là. Il y a rien qui pèse contre lui, sauf le fait que c'est le dernier à l'avoir vu. Mais seulement ça, ça le place automatiquement comme le seul suspect dans l'affaire. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un dramaturge, metteur en scène et acteur québécois, mais qui est aussi très très connu à l'international. Il a fait des grandes pièces de théâtre, des grands films. Il est assez, c'est comme une fierté québécoise. Mais à cette époque-là, il était super jeune, il avait seulement 23 ans. Donc il n'avait pas encore eu son big break, il n'était pas encore connu. Mais je pense qu'il a été connu 2 ou 3 ans après ce drame. Le soir du mercredi 22 octobre, France et lui sont allés voir une pièce de théâtre au Café Théâtre Le Hobbit, qui est sur la rue Saint-Jean. Ça existe encore, c'est le café ou le restaurant Le Hobbit. Vers minuit, Robert Lepage a ramené son amie chez elle. C'était pas vraiment loin, c'était 350 mètres, donc 5 minutes de marche. En arrivant, ils ont jasé une dizaine de minutes devant la porte de France, qui l'a invité à venir prendre un café chez elle. Il a refusé parce qu'il savait que s'il rentrait, il allait parler pendant 2-3 heures. Donc il a dit « Non, on a une répétition demain, je veux être en forme. » En regardant l'intérieur de son appartement, France a remarqué qu'il y avait, il y avait une fenêtre entrouverte. Et il y avait une plante qui avait été renversée, mais elle a dit « Ah, ça doit être mon chat, tu sais, qui a renversé la plante. » Robert se rappelle très bien, Robert, comme c'était mon ami, mais ben, Robert Lepage, elle se rappelle très bien que cette soirée-là, ben, à ce moment-là, avant qu'il quitte, France avait l'air tourmentée, un peu inquiète de quelque chose, comme si elle pressentait que quelque chose allait lui arriver. Sur le chemin du retour, Robert s'est arrêté pour saluer une de ses amies, Monique. Ils ont parlé environ 5 minutes et ensuite il est rentré chez lui. Il était minuit et demi environ. Il a regardé un petit peu la télévision et il est allé rejoindre son conjoint dans son lit qui était déjà là plus tôt. Donc il y a comme quand même 2 témoins là, pour dire qu'il est bien rentré chez lui cette soirée-là. Mais là, si on pense que le meurtre a eu lieu entre minuit 45 et 1h du matin, il était à minuit et demi, il venait juste de rentrer chez lui, c'est comme presque impossible que ça soit lui. Mais pendant un bon mois ou deux, c'était vraiment le seul suspect. Les policiers lui ont fait passer le polygraphe, qu'il a réussi. Il le lâchait pas. Là. Quand on a interrogé le petit ami de France, Alain, lui, il était vraiment pas un suspect parce que je pense qu'il était même pas en ville à ce moment-là, mais c'est vraiment pas un suspect. Mais il se rappelle d'un incident assez étrange. Quelques semaines avant le meurtre de France, qui était chez France avec elle durant la nuit, quand ils ont entendu un bruit sur la galerie qui est près de la cuisine. En regardant par la fenêtre, il a vu comme un homme qui était assis sur la galerie. Quand Alain l'a interpellé, lui a parlé, l'homme s'est comme accroupi pour se cacher de Alain, le petit ami de France. Et là, Alain lui a demandé, genre, « Qu'est-ce que tu fais? » Et je vais vous lire le dialogue, en fait, qui a eu lieu cette nuit-là. Alain a dit, « Y a-t-il quelqu'un qui est là? » L'homme, l'intrus, a répondu, « C'est moi. Qu'est-ce que tu fais là? » Pas de réponse. Tu te caches de qui? Pas de réponse. C'est quelqu'un de dangereux? Oui. Dangereux pour qui? Pour moi-même. Tu te caches des policiers? Non. Et là, Alain est sorti et il a invité le rôdeur à venir prendre un café chez lui. Et là, le rôdeur a comme répondu non, genre un peu comme fâché, puis genre c'est ridicule ta demande, je veux pas rentrer chez toi prendre un café. Et c'est là que Alain il a juste dit genre crisse ton camp. Pour les Français, c'est genre pars, là, je sais pas comment dire ça plus, mais crisse ton camp, là, va-t'en d'ici tout de suite. Alain a décrit le rôdeur comme étant un homme dans la trentaine avec les cheveux courts et une voix monocorde. Mais c'est sûr que c'était en plein milieu de la nuit, je pense qu'il était 1h30 du matin, tu vois pas grand-chose, tu peux juste l'identifier par la voix. mais c'est un incident assez troublant, encore une fois, quand tu connais le tragique destin qu'a connu France par la suite. La dernière fois qu'Alain a parlé à France, c'était le soir du 22 octobre à 19h30. Elle partait rejoindre Robert Lepage au Carré d'Youville et lui aussi a remarqué qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. C'est comme si elle était troublée dans sa manière de parler. Fait qu'on se demande peut-être qu'elle se sentait déjà observée, traquée, mais elle voulait pas inquiéter ses proches. On sait pas. C'était pas facile, la gang de théâtre, parce que tout le monde, inconsciemment, se soupçonnait du meurtre de France. Ils se dévisageaient tous, ils commençaient à être vraiment paranoïaques, genre « Pourquoi tu me regardes? Ben je te regarde pas. Mais oui, tu me regardes bizarrement. Tu penses-tu que c'est moi qui l'ai tué? Non! » Puis c'était vraiment rendu... ben c'était lourd comme ambiance. Déjà qu'ils avaient perdu une de leurs bonnes amies, ben là, c'était comme tout le monde se soupçonnait de l'avoir tué. Fait qu'imaginez-vous, genre, dans votre gang d'amis, genre, il y a l'un de vous qui meurt assassiné. Bien sûr que tu vas commencer à soupçonner un peu tes amis, puis tu vas dire, tu sais, si les policiers en soupçonnent deux, ben tu vas dire, est-ce qu'il y a de quoi qu'ils nous disent pas? Est-ce que ça aurait pu être eux? Puis même si tu dis, ben non, 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 c'est sûr que c'est pas eux, il y a toujours le petit doute. Fait que c'était vraiment pas plaisant, c'était stressant, puis ça avait vraiment plus comme à qui faire confiance. Donc il y avait déjà pas mal d'incendies dans le Vieux-Québec depuis quelques semaines, et même suite à la mort de France Lachapelle, les incendies n'ont pas cessé. Le 12 novembre, trois semaines après le meurtre, il y a un incendie criminel qui s'est déclenché à 80 mètres du 540 rue de Lachapelle, fait que c'est pas très loin. Encore une fois, l'incendie s'est allumé à même le matelas. Il y a aussi quelques femmes qui ont commencé à se plaindre d'un voyeur. On sait pas si toutes les femmes se plaignaient de la même personne. On sait pas non plus si c'est le même. Mais le soir du 11 novembre, une femme dit avoir vu un homme nu devant la fenêtre d'un appartement de trois femmes. La femme a fait une description au policier et là, il y a un portrait robot qui a été fait, qui a été diffusé dans les médias d'ailleurs. On parle d'un homme de 27-28 ans. 5 pieds 8, 150 livres, mince, qui a un grain de beauté sur le menton et sur la joue gauche. Il a les cheveux bouclés, clairs et le teint assez pâle. Fait que c'est quand même très précis là, pour un portrait robot, surtout là, les grains de beauté et tout. Et là, écoutez ça, ça fait vraiment peur. Là ça n'a pas vraiment de lien avec l'histoire, mais peut-être que oui. Mais le 25 novembre, il y a une jeune femme qui travaille comme hôtesse dans un restaurant sur la Grande Allée. Dans la ville de Québec, la Grande Allée, c'est une rue ou qu'il y a plein de bars et de restaurants. Donc, elle habitait pas loin de la place où elle travaillait, donc elle est rentrée chez elle à 4h du matin, et elle est rentrée à pied. Elle était dans la salle de bain chez elle, elle se démaquillait, quand elle a entendu comme le plancher craquer chez elle, et là, elle est sortie de la salle de bain et elle a vu qu'il y avait un homme chez elle. L'homme lui a dit « Tu fermes ta gueule », mais elle l'a pas écouté, elle s'est mise à hurler. Et l'homme a pris peur, il s'est enfui en sautant par la fenêtre. Il avait comme défoncé le moustiquaire. Donc ça, c'est assez troublant. Et oui, il y avait des voyeurs, mais c'était vraiment la première fois qu'il y a quelqu'un qui rentrait chez... à part le mur de France, mais c'était la première fois qu'il y avait quelqu'un qui rentrait puis que ça présentait vraiment une menace, là. Fait qu'on sait pas encore là, ça se peut qu'il y ait un voyeur, un pyromane et un meurtrier, ça se peut qu'il y ait un meurtrier, un pyromane, ça soit la même personne, le voyeur et le meurtrier, ça... vous comprenez. Mais... c'est une petite ville tranquille quand même, Québec. Fait qu'il y ait trois maniaques en liberté, ça, moi, ça me surprendrait, là. Mais selon les statistiques, 70 à 80% des incendies criminels sont soit pour se venger, soit pour une question d'assurance.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Fake. comme c'est dit dans le livre, des pyromanes, là, ça court pas les rues. Fait qu'on pense que oui, tous les incendies criminels sont reliés, et peut-être même celui de France. Malheureusement, malgré tout ça, l'enquête fait du surplace, il n'y a pas grandes avancées, malgré les efforts des détectives, et oui, ils font beaucoup, beaucoup d'efforts pour trouver le meurtrier. Ils éliminent enfin Robert Lepage comme suspect, mais là, sont dans le néant total, jusqu'en novembre 1982. Le 25 novembre 1982, 2 ans après les meurtres, il y a un jeune homme dans la vingtaine nommé Christian qui se présente aux urgences de l'hôpital Le Chul. Il est clairement en délire psychotique. Il a le visage peint en rouge et il parle qu'il veut fonder un parti politique et il parle de la danse, là, qu'il vit pour la danse. On lui fait rencontrer une stagiaire en psychiatrie et la stagiaire note dans son calepin idée de grandeur, délire de puissance et perte de contact avec la réalité. Il lui dit que plus tôt dans la journée, il s'est rendu sur le pont de Québec et qu'il a jeté un morceau de fer dans le fleuve, ce qui représentait le morceau de fer, ça représentait la partie déprimée et suicidaire de lui. La psychiatre lui injecte un neuroleptique par intraveineuse. Et là, l'homme est relâché 4 jours plus tard parce que il s'est enfin calmé de sa psychose et ne représente plus du tout un danger pour lui-même ou pour autrui. Mais là, le 8 décembre 1982, environ 2 semaines plus tard, le même Christian se rend encore une fois au CHUL, mais cette fois-ci, il y a la moitié du visage qui est maquillée en femme et il dit « Ok, ça c'est ma sœur jumelle, Christiane. » Il n'y a pas de sœur jumelle, là. Christian rencontre un psychiatre. Et là, il sort un genre de napperon en papier, comme on y donne dans les restaurants, là, un napperon en papier. Et sur le napperon, il y a comme dessiné 3 cercles avec quelques mots décrits dessus, dont les mots « vêtu de rose » et « viol ». Et ce simple napperon avec des mots d'écriture dessus sera quand même important durant le procès. On va y revenir. Le psychiatre note une désorganisation de la pensée et des symptômes de confusion. Christian Gagnon est gardé sous observation quelques jours, mais obtient son congé assez rapidement. Le 22 décembre, donc encore là, 2-3 semaines plus tard, il y a Francine Lafontaine qui marchait dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Francine est aussi comédienne, puis c'était une très bonne amie de France, donc elle se tenait dans le même cercle d'amis, quand elle se fait approcher par un jeune homme. Il lui dit, et je cite, « Êtes-vous au courant qu'il y a 2 ans, il y a eu un meurtre sur la rue de la Tourelle? » Imagine, là, c'est quand même bizarre, surtout quand la victime, c'est une de tes meilleures amies. Toi, tu marches tout bonnement, puis tu te fais approcher par un inconnu, puis on te parle du meurtre de ta meilleure amie. Francine dit, « Ben oui, je sais. Pourquoi? » Et là, l'homme dit, « Parce que je sais que tu connais France Lachapelle. » Les deux parlent un peu. L'homme dit que le meurtre de France Lachapelle l'a toujours intrigué et qu'il a écrit des poèmes sur France. Francine, elle dit « J'aimerais vraiment les lire, peux-tu m'y montrer? » Elle sent qu'il y a quelque chose de louche dans toute cette histoire. Puis c'était pas la première fois, en fait, dans l'affaire de France Lachapelle, c'est arrivé comme 2-3 fois qu'il y a des gens qui ont avoué le meurtre, mais c'était pas du tout eux qui l'avaient fait. Je pense, il y a toujours, ça arrive quand même souvent dans les histoires de meurtre. Et avec France Lachapelle, ça ne fait pas exception. Il y a des gens qui ont avoué son meurtre alors que pas du tout, là. Donc Francine, super courageuse, elle veut lui tirer les verres du nez. Donc elle l'invite à venir prendre un verre avec elle au café Le Hobbit, le café dont je vous ai parlé. Donc elle lui donne rendez-vous la soirée même et elle prend soin d'inviter un de ses amis pour qu'il s'assoie dans son table pas très loin et s'assure comme de sa sécurité. Donc au restaurant, le jeune homme commence en disant qu'il y a une double personnalité et qu'il aimerait lui montrer les poèmes qu'il a écrits. Et encore plus fréquent, il connaissait pas mal Francine, l'amie de France, et il savait qu'elle faisait du théâtre et des dessins, il savait que c'était une très bonne amie de France Lachapelle. Tu sais, aujourd'hui, c'est des trucs super faciles à savoir, là. Tu visites le profil Instagram de quelqu'un puis tu sais tout ça. Mais à l'époque, il n'y avait pas Internet, et comment il savait ces petits trucs-là sur la vie de Francine? Là, Christian sort 2 papiers de sa poche, des genres de napperons en papier, encore une fois. Et dessus, Francine voit les mots « viol »,« feu »,« séduction »,« lumière »,« purification ». Et elle voit que c'est signé Christian Gagnon. Christian dit qu'il a écrit ses poèmes suite à la mort de France, qui lui a causé une dépression nerveuse. Il dit qu'il connaissait France parce qu'il la suivait souvent dans la rue et la photographiait, bien sûr, à son insu. À ce moment-là, Christian est assez nerveux, il finit pas ses phrases, il se lève d'un bond, puis le français, il peut te rasseoir, là, s'il te plaît, genre, calme-toi, t'sais, il n'y a pas de stress. Il parle beaucoup d'astrologie, du fait que France a été tuée un soir de pleine lune. Il parle du parti politique qu'il aimerait fonder, le parti Taureau. Fait que c'est super décousu, là, ce qu'il dit. Et finalement, il avoue qu'il a fait quelque chose de terrible. Accompagné d'un ami, il s'est rendu chez France. Il l'a attendu à l'intérieur. Il l'a ligoté, bâillonné et a mis le feu au matelas pour la purifier et ensuite le poignarder. Mais Christian ne parle pas au « je », il parle au « on ». Il parle aussi de deux autres entités qui font partie de lui, le voyeur et l'assassin. Mais il passe vraiment du « on » au « il » au pluriel, c'est super confus tout ça. Francine lui dit « ok, mais pourquoi France n'a pas crié ?» Il dit « ah, c'est que le premier l'attachait pendant que l'autre regardait ». Encore là, il parle de deux personnes. Il dit aussi qu'il a poignardé France avec des aiguilles à tricoter qu'il a trouvées à côté du lit. Ce qui est vrai, elle a été poignardée avec des aiguilles à tricoter. Il raconte vraiment tout dans les moindres détails. Et là, il dit, écoutez bien ça, cette phrase-là est assez troublante, là. « La chapelle est morte parce qu'elle était belle et que la beauté fait mal. Il faut protéger la société contre cette douleur. » Donc après ça, après cette rencontre, ma foi, troublante, Francine se rend au poste de police à 00h45 et fait une déclaration officielle de sa rencontre avec Christian Gagnon. Dès le lendemain, le 23 décembre à 11h15, Christian Gagnon est amené au poste de police pour son premier interrogatoire. Avec les policiers, Christian redit la même chose qu'il a dit à Francine et donne des détails super précis du meurtre. Par exemple, écoutez ça, il dit que quand France a refusé de coucher avec lui, il l'a ligoté. Fait que là, l'enquêteur lui demande où il a pris la corde et là, Christian dit « il y en a une que j'ai trouvée dans la maison et l'autre sur un chantier de construction du carré Diouville ». Et ce petit détail est super, super important parce qu'en effet, France, elle a été attachée avec deux sortes de cordes différentes. Et ça, personne le savait, ça n'a jamais, jamais été dit dans les médias, il y a juste les policiers qui le savaient. Et même si les policiers comme ça, ils l'ont pas su à l'œil nu, il a fallu que le pathologiste le sache, là. C'est lui qui a dit qu'il y a deux types de cordes. Fait qu'il y a juste le meurtrier et les policiers qui savaient ça, là. Donc, que Christian offre cette information, puis comme ça, là, tu sais, il a juste dit comme ça, c'était naturel pour lui de dire ça, ben c'est super révélateur. Lorsqu'on annonce que Christian Gagnon a été arrêté, une photo de lui circule dans les médias, dans les journaux, et suite à la publication, il y a plusieurs femmes qui appellent la police pour dire que Christian était l'auteur de nombreuses agressions sexuelles dans le Vieux-Québec. Finalement, il y en a juste une qui a été amenée en cours, là, qu'on a pu prouver. Plusieurs comédiennes le reconnaissent également parce qu'il se tenait beaucoup au bar Le Saint-Angèle. Pour les Québécois, là, la ville de Québec, le bar Saint-Angèle, moi j'aime tellement ça aller là, ça m'a surpris de lire ça de même. Donc, il se tenait vraiment dans le milieu du théâtre. Il allait au même bar que toutes les comédiennes, mais c'était pas un comédien. Fait que c'est assez étrange. Chez lui, les inspecteurs ont aussi trouvé plusieurs photos de femmes que Christian prenait à leur insu, donc dans la rue, il se cachait pour prendre des photos de femmes. Mais là, malheureusement, le 12 janvier, Christian revient sur sa déposition et il nie toutes les déclarations qu'il a faites aux policiers. Mais il se mélange beaucoup dans ce qu'il dit. Il dit qu'il connaît pas France, mais là après il dit qu'il était amoureux d'elle. L'avocat de la défense dit aussi que son client n'a pas les capacités mentales pour comprendre ce qui lui arrive, ce qui est possible parce que, tu sais, il est allé deux fois en délire psychotique au CHUL. Fait que c'est un homme qui est atteint de troubles de santé mentale. Donc il subit un examen psychiatrique pour savoir si, en effet, il comprend ce qui lui arrive. L'examen dure 3 jours et le psychiatre détermine qu'il a un état d'esprit conscient, qu'il souffre d'idées de grandeur, mais qu'il comprend les gestes qu'il a commis. Le procès commence le 24 avril 1984, 4 ans après le meurtre de France Lachapelle. Il se fera devant un jury composé de 5 femmes et 7 hommes. Et pendant tout ce temps-là, Christian est en prison et les incendies criminels n'ont pas cessé dans le Vieux-Québec. Donc, on peut se demander si... on pense qu'il y avait un pyromane à part du meurtre de... Mais admettons que c'est Christian le coupable du meurtre, mais il devait avoir un pyromane à part, ou peut-être que c'est un copycat. Mais bon, c'est une information quand même importante à dire que les incendies n'ont pas cessé. Après un très long procès où Robert Lepage est d'ailleurs amené à témoigner, Christian Gagnon est reconnu coupable du meurtre au premier degré de France Lachapelle et est condamné à la prison à vie. Mais l'avocat veut amener la décision en appel parce qu'il juge que son client n'a pas eu toutes les chances de son bord. En fait, lui, sa défense, c'est que Christian n'a pas fait le meurtre et qu'il aurait pu obtenir les informations qu'il a dit aux policiers, qu'il aurait pu obtenir ces informations dans les journaux. Parce qu'en fait, durant le procès, on a appris que le soir du 22 décembre, avant de faire sa grosse confession à l'ami de France, le Francine, Christian y a appelé comme un de ses amis, Denis Côté, en vitesse pour lui demander des détails sur la mort de France. Donc, il a appelé comme avant que l'autre comédienne arrive au resto. Il a demandé à Denis de quelle manière France avait été poignardée. Puis c'est là, Denis a dit « Elle n'a pas été poignardée avec des aiguilles à tricoter ou quelque chose de même. » Christian a même demandé des coupures de journaux à son ami pour avoir encore plus de détails sur l'affaire. Donc c'est un événement assez révélateur. Ça se pourrait très bien que toutes les informations qu'il dit, il les a obtenues dans les journaux. L'avocat de la défense a amené comme cet argument en cours durant le procès, mais le juge s'est opposé à ce que Denis Côté continue de témoigner parce qu'il disait que c'était pas une preuve, sinon des oui-dire. Donc, pour l'avocat de la défense, il disait que son client n'avait pas eu un procès juste et équitable, ce pourquoi il voulait aller en appel. Et en effet, il y a eu un deuxième procès. Le deuxième procès a commencé le 16 mars 1987, donc on est maintenant à 7 ans après le meurtre. Fait qu'imagine, genre, la torture pour les proches de France qui pensaient déjà, tu sais, qui pensaient avoir arrêté le coupable, là, bon, on peut laisser ça derrière nous, on peut faire le processus du deuil, ben commencer, mais là, non, on retourne en appel, puis il faut revivre tout ça encore une fois, c'est vraiment de la torture, là. Et là, Christian Gagnon affirme encore une fois qu'il n'a pas tué France Lachapelle, que ce sont ses troubles de santé mentale qui lui ont fait dire tous ses aveux, mais qu'il n'a rien à voir dans cette affaire. Mais finalement, il est à nouveau condamné pour meurtre au premier degré et écope, encore une fois, d'une peine d'emprisonnement à vie. Et là, Christian a eu droit à un autre procès parce que le juge du deuxième procès était vraiment, vraiment pas professionnel. Puis c'est super bien expliqué dans le livre, là. Je vais vous en parler à la fin. Mais il a le droit à un autre procès, en gros, parce que ses droits ont été bafoués. Et même Christian, lui, il en veut pas d'autres. En fait, il est à l'Institut Pinel et qui est comme bien, ok, puis il veut pas d'autres procès. Parce que lui, il y a plus de 12 ans qui ont passé après le meurtre de France Lachapelle. Et lui, il dit « Je veux pas revivre un autre procès, c'est stressant pour lui. » Il est déjà très fragile mentalement, cet homme-là. Et là, on lui impose un autre procès. Bon, on lui impose pas, mais on lui dit « Ok, tu vas faire le même processus une troisième fois, c'est super stressant. » Mais là, son avocat lui explique « Ok, là, on a des bonnes chances. En fait, si tu plaides coupable de meurtre au second degré, tu vas avoir à faire 10 ans de prison. » Mettons 25 ans, mais ça peut être réduit à 10 ans. Mais là, il avait déjà fait 10 ans de prison. Fait qu'il a été libéré. Et il est donc libre aujourd'hui. Il y a plusieurs avocats, des docteurs qui l'ont traité, qui l'ont côtoyé, puis il y en a beaucoup, beaucoup, des professionnels qui croient qu'il est non coupable. Apparemment que quand il était en prison, il y a des gens, là, des prisonniers qui le frappaient, puis qui le tabassaient, et il n'y a pas une fois qu'il s'est défendu. En fait, il se laissait faire. Fait qu'il n'y a comme pas une once de violence dans cet homme-là. C'est jamais défendu. C'est pas un homme qui est fondamentalement violent. Mais en même temps, aujourd'hui, ou quand il était en prison, il était suivi, médicamenté, traité, c'est possible que ça l'aide. C'est possible qu'au moment des meurtres, ben s'il était comme en sorte de psychose, puis qu'il avait jamais été traité, médicamenté de sa vie, ça se peut que ça lui ait causé de la violence, là. Fait que, tu sais, je sais pas, là, tu sais, de dire qu'il est pas un homme violent aujourd'hui, ben, tu sais, ça... Alors qu'aujourd'hui, il est traité, médicamenté, ben c'est pas vraiment un bon argument pour moi, là. Pour ce qui est de l'ADN, ben à l'époque, on n'avait pas vraiment la technologie pour faire des tests d'ADN sur la scène de crime. Et malheureusement, tout ce qu'on a prélevé sur la scène de crime, les empreintes digitales, tout ça a été jeté ou détruit. Fait que c'est extrêmement fâchant. Fait qu'on saura jamais c'est qui le coupable du meurtre de France Lachapelle grâce à l'ADN. Donc vous en pensez quoi? Moi, je pense que c'est très possible que Christian soit coupable, mais s'il avait des troubles de santé mentale, et à ce que je peux constater, c'était assez grave, est-ce qu'il était réellement responsable? Je sais pas, je crois pas. Et aussi, ça se peut qu'il ait tout avoué dans un état de psychose, là. Ça se peut que ça soit pas lui du tout. Moi, c'est juste l'incident comme les deux cordes qui sachent ça. Mais en même temps, ça peut être comme une pure coïncidence, là. Je vous recommande énormément le livre. Ça a été écrit par Monsieur Jacques Côté, publié aux éditions de l'Homme, comme moi. Là, tu sais, vous voyez que j'ai pu souligner. Il y a comme un carnet photo super intéressant. Et j'ai tellement de détails que j'ai pas pu dire. Il y a même des preuves là, que j'ai pas pu amener. Et vous me demandez toujours des recommandations de true crime en français. En voilà une. C'est super bien écrit, ça se lit super vite. Et la partie du procès avec le juge trou de cul, là, ça c'est genre, j'étais comme quoi? 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 Ça vaut vraiment la peine juste pour la partie du procès, là, c'est comme une série télé, là. C'est super bon. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Je sais que au Québec, il est partout dans les librairies. Pour la France, je pense que pour le moment, il est juste en format numérique, mais ça devrait pas tarder. Je pense qu'il va être vendu en France, comme cette maison d'édition-là, qui est la mienne, elle est vendue en France, là. Fait que pour l'instant, je pense que c'est juste en numérique pour la France, mais sinon, les Québécois, là, allez vous le procurer ou demandez-le pour Noël dans votre wishlist. Ça vaut la peine, ça se lit super bien. Et comme je vous dis, j'ai dit comme le corps des détails, là. Puis cette histoire, moi en tout cas cette histoire c'est comme, elle m'a beaucoup passionnée. Je trouve que, en tout cas si c'est pas lui qui a fait le meurtre, là, on a affaire à deux victimes. Puis c'est comme un genre de making a murderer québécois, mais les policiers, c'est pas eux qui voulaient l'incriminer, là. C'est lui qui s'est comme incriminé seul, bref. Fait que voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et ma nouvelle ambiance avec, je me suis acheté comme un ring light, j'espère que c'est plus beau. Ben ça, moi je trouve ça vraiment plus beau. Ouais, je suis bien contente. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Donc ici, ce qu'on peut apprendre de cette histoire, c'est de bien barrer ses portes. Partout, 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 même si vous avez une trappe chez vous, barrez-la, les fenêtres, là. Barrez tout, tout, tout. Et on se revoit la semaine prochaine. Over and out.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.